Bien, donc nous, de nouveau, nous faisons notre petit saut dans l'histoire. Donc cette fois-ci, nous sommes, comme vous le voyez, au XVIIe siècle, avec Baxter et Spener. Donc à gauche, Baxter, il passe un peu pour le père du puritanisme, et il a voulu purifier l'église anglicane, hein, les puritains. Évidemment, aujourd'hui, le mot puritain est très négatif. Mais les puritains, c'est un sobriquet qui leur a été donné parce qu'ils voulaient purifier justement l'église anglicane qui les a vus naître. Et à droite, vous avez Spener, qui est peut-être mieux connu dans nos milieux, qui lui a apporté le piétisme. Il est né dans le contexte luthérien. Il y a beaucoup de points communs entre ces deux personnages. Alors tout d'abord, Baxter. Donc Baxter... Lui est l'héritier du contexte de l'anglicanisme. L'anglicanisme, qu'est-ce que c'est ? C'est une autre religion réformée. C'est un mélange de catholicisme et de calvinisme, en fait. Et l'anglicanisme a vu le jour suite à une querelle entre Henri VIII et le pape. Henri VIII voulait se séparer de son épouse, je ne sais plus laquelle, qu'il en a eu sept. Je crois que c'était la première. Et donc le pape, évidemment, ne voyait pas tout à fait cette affaire d'un bon œil. Donc à cela ne tienne, Henri VIII a décidé de se séparer de Rome et de devenir chef de l'Église d'Angleterre. C'est ce qu'on appelle l'acte de suprématie qui date de 1534 et qui fait du roi donc le chef de l'Église anglicane. Donc le pape est complètement écarté. Alors ce qui est drôle, ça c'est l'humour de l'histoire, c'est que lorsque Luther avait publié ses 95 thèses en 1517, donc il avait été critiqué par le monde catholique, et Henri VIII avait pris la plume pour écrire un pamphlet contre Luther. Et en réponse, le pape l'avait fait défenseur de la foi. Il ne savait pas que son défenseur de la foi allait lui poser de gros problèmes avec ses ennuis de couple quelques années plus tard. Donc ensuite, l'anglicanisme adopte ce qui est un peu le pilier de sa liturgie, le Book of Common Prayer, qui existe toujours. Hein, c'est un ensemble de prières, de cantiques, de tous les sacrements de l'Église anglicane. L'Église anglicane va évoluer au rythme des variations politiques au XVIe et XVIIe siècle. Marie Tudor a été surnommée Marie la Sanglante, surtout dans le monde protestant, parce qu'elle a voulu, elle, revenir au catholicisme. Et ensuite, la reine Élisabeth, à la fin du XVIe, début XVIIe, impose, elle, une voie mixte, une voie moyenne entre catholicisme et protestantisme. Et elle sera très critiquée par les puritains qui, justement, veulent purifier cette église anglicane qu'ils trouvent trop engoncée dans les rites. Alors Baxter, lui, va être ordonné dans cette église anglicane. Il naît dans une famille pieuse anglicane, mais qui était déjà quand même traversée par des idéaux aussi de piété. Hein. Il y avait probablement des prédicateurs déjà qui annonçaient le puritanisme. Donc il est acquis, on les appelle les non-conformistes, les dissidents, les puritains, enfin, il y a différents termes, et il y a différents chemins, différentes filières aussi entre eux. Donc au milieu du XVIIe siècle, le roi Charles Ier est donc exécuté, et Cromwell prend le pouvoir, c'est un puritain un peu extrémiste. Cette mort du roi Charles Ier va semer un vent de panique en Europe. Et en France, Louis XIV va se montrer très féroce à l'égard des protestants, parce que justement, toutes les têtes couronnées craignent pour leur tête, puisque le roi d'Angleterre a perdu la sienne. Et donc c'est à partir de là qu'en France, on aura l'adage « une foi, une loi, un roi ». On aura en 1685 la révocation de l'édit de Nantes qui va obliger bon nombre de protestants à partir ou à s'exiler ou à choisir la clandestinité. Donc le monarque Charles II, donc le fils de Charles Ier, remonte sur le trône en 1661. La situation s'apaise un peu et on va voter l'acte d'uniformité qui est une sorte de voie moyenne, là aussi, mais cet acte d'uniformité va entraîner l'expulsion de bon nombre de puritains qui, jusque-là, étaient dans cette grande église, plus ou moins bien vus. Donc, ils sont désormais chassés, et Baxter lui-même est concerné. Baxter va être emprisonné, d'ailleurs, à plusieurs reprises. Ensuite, un peu plus tard, à la fin du XVIIe siècle, c'est la loi du test qui obligeait en fait les ministres, qui oblige toute personne voulant accéder à une fonction publique à prêter serment de fidélité au régime. Et donc les catholiques qui ne veulent pas prêter ce serment de fidélité vont être mis à l'écart de la société. Ils vont le rester longtemps, jusqu'au XIXe siècle. L'anglicanisme, encore une fois, s'est montré assez féroce envers les religions dissidentes. Et c'est la raison pour laquelle bon nombre de ces puritains vont aussi partir aux États-Unis, fonder les 13 petites colonies initiales sur la côte ouest des États-Unis. Et donc cette loi du test sera abolie au XIXe siècle. 100 ans avant nous, en 1689, on assiste à ce les Anglais ont appelé la glorieuse révolution, avec un acte de tolérance qui donne la liberté à tous les protestants, donc bien avant la France, à tous les protestants, mais encore une fois, pas pour les catholiques. Mais cela dit, on voit se dessiner vraiment deux familles dans l'anglicanisme, la haute église, qui est encore très branchée, si vous voulez, sur le catholicisme, les rites, et la basse église qui met l'accent sur une piété beaucoup plus intériorisée. Bon nombre d'églises évangéliques ensuite vont naître de cette basse église. Mais on trouve, cela dit, des auteurs dans les deux tendances. Donc Baxter va nous laisser... Alors, il a eu un destin lui aussi assez original, parce qu'on ne sait pas énormément de choses sur sa jeunesse. Il n'a pas pu suivre d'études, ça a été un peu le regret de toute sa vie. Il avait une santé très chancelante. Et il avait aussi un autre problème. C'est que comme il savait qu'il pouvait mourir du jour au lendemain à cause de sa santé, il était pressé de vite, ce qui va avoir une certaine influence sur sa théologie. Quand on le lit parfois, on a l'impression que vite, il faut absolument être, assidu dans tous les instants, faire ce qui plaît au Seigneur, ne pas perdre de temps. Ne pas être, comme il disait, assidu au plaisir de la chair, le manger par exemple, donc doit occuper un minimum de temps, attention à la gloutonnerie, les gloutons ce sont des idolâtres de leur ventre, etc. On lit aussi ça chez lui. Et donc, par contre, comme il n'a pas suivi de parcours académique, il est resté très simple. Et donc son message a beaucoup porté sur ses ouailles, parce que ce n'était pas un discours alambiqué de toutes sortes de formules théologiques. Alors, les deux ouvrages les plus connus, c'est « Le repos éternel des saints ». Ils ont tous été réédités, on les trouve dans les librairies chrétiennes maintenant. Donc, « Le repos éternel des saints », il l'avait écrit quand il pensait mourir demain. Encore une fois, il a été au bord de la mort à plusieurs reprises. Et donc, vite, il l'a écrit. Puis finalement, il a dit le Seigneur lui a donné un répit. Donc, il l'a prolongé pendant des décennies, puisqu'il est mort finalement assez âgé. Pour quelqu'un du XVIIe siècle, c'était énorme de mourir. C'était très, très tardif, déjà, de mourir à 76 ans, alors que l'espérance de vie, on dit que l'espérance de vie en 1800 était de 40 ans, et 48 ans en 1900. C'est une moyenne. C'est une moyenne, mais voilà, ça nous montre qu'il a eu une vie très, très longue. Et l'ouvrage le plus connu, c'est Le Pasteur chrétien. Normalement, il s'appelait Le Pasteur réformé. Mais le mot réformé n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui. Pour lui, c'est le pasteur engagé, le pasteur qui s'est débarrassé des rites, des églises traditionnelles. C'est le pasteur qui veut faire à fond son métier, le pasteur chrétien. Et donc le pasteur chrétien, là aussi, c'était un message qu'il devait donner à un rassemblement de pasteurs. Il a été malade, il n'a pas pu se rendre à ce rassemblement, donc il a pris la plume et il a écrit son ouvrage qui existe donc toujours et qui est étudié toujours dans les facultés de théologie. Voilà, j'ai vu qu'il était là, donc vous pourrez le feuilleter. Et c'est un commentaire de Actes 20-28. Donc prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Alors c'est une étude assez fouillée, hein, vous voyez. Première partie, la surveillance de nous-mêmes, la nature de cette surveillance, les motifs de la surveillance de nous-mêmes. Deuxième partie, la surveillance du troupeau, la nature de la surveillance, la manière d'exercer la surveillance du troupeau, les motifs de la surveillance du troupeau. Troisième partie, l'application. Nécessité de l'humiliation, le devoir de catéchiser et d'instruire le troupeau. En fait, c'est un homme pratique, Baxter. C'est lié au fait que c'était un homme autodidacte. Il a le souci d'être pratique. Donc, quand il enseigne d'autres pasteurs, il veut aussi leur donner des outils. Alors, il entre tout de suite dans le concret, hein, l'importance de la piété personnelle du pasteur. Prenez garde à chacune de vos paroles, à chacune de vos démarches. « Car vous portez l'arche sainte, l'honneur de Dieu vous est confié. Toutes vos prédications et toutes vos exhortations ne sont qu'une misérable hypocrisie tant que l'œuvre de Dieu n'est pas accomplie dans votre cœur. » À une époque où dans les facultés de théologie, on mettait l'accent sur le discours académique, évidemment, il n'avait pas tout à fait le même message. Ce sont communément les hommes dépourvus de connaissances solides qui recherchent avec le plus d'avidité les ornements du langage. Ceux, au contraire, qui possèdent une expérience et une science réelles, expriment avec simplicité les vérités fondamentales. Bon, la suite, je m'en serais passée, mais comme il se réfère à Aristote, je l'ai laissé. Suivant l'expression d'Aristote, les femmes sont si soucieuses de leur parure parce qu'elles ont la conscience de leur peu de culture intellectuelle. Il en est de même de ces prédicateurs futiles qui cherchent à déguiser la stérilité de leur pensée par le luxe et l'éclat des expressions. Alors, quand j'ai lu ça la première fois, c'est pas très gentil, c'est pas très charitable ce que je vais dire, mais bon, on est en famille. Ça m'a fait penser pendant la Covid, sans doute vous avez dû aussi parfois regarder le jour du Seigneur pendant la Covid, le dimanche matin sur France 2. Donc vous avez un message catholique, non, catholique et protestant après, je crois. Eh bien, parfois, le message protestant, quand c'était des réformés, je me suis dit, oui, c'est quand même vraiment creux, hein, c'est pseudo-philosophico-théologico, mais on n'en sortait pas grand-chose, et on était parfois plus édifiés par le prêtre catholique, après, dans la messe, que par certains discours creux. Bon, je ferme la parenthèse. Ah oui, en plus, ensuite, après, bon. Ensuite, il parle beaucoup du danger de l'orgueil, aliment et source de tous nos autres péchés. Donc c'est intéressant parce qu'il sonde beaucoup les motivations, Baxter. Encore une fois, ce n'est pas que l'extérieur, mais vraiment, qu'est-ce qui me fait agir? Ce péché est malheureusement commun à tout homme, mais il est plus odieux et plus inexcusable chez un pasteur. L'orgueil est pour nous un maître tyrannique, un ennemi rusé. Il nous poursuit jusque dans notre cabinet. Il faut imaginer le pasteur, là, hein, qui prépare son sermon. Il choisit le sujet et souvent les expressions de nos sermons. Il nous fait rechercher les ornements superflus. Et quand l'orgueil a composé notre sermon, il nous accompagne dans la chair et nous inspire la soif des applaudissements. Alors, j'ai coupé la citation, mais ensuite il poursuivait. Et quand nous avons terminé notre prédication, que nous rentrons chez nous, l'orgueil nous poursuit encore. Et il nous dit « Ah, t'as bien prêché, etc. » Autre élément intéressant chez Baxter, c'est qu'il dit donc aux pasteurs qu'il est très important de s'occuper de tout le troupeau. Souvent, à l'époque, on disait « Il faut catéchiser le père de famille. » On avait une conception très pyramidale. Hein, et puis, il enseignera les autres membres de sa famille. Donc pour lui, il faut catéchiser les personnes, il croit beaucoup aux entretiens individuels. rencontre individuelle, il dit « ça portera beaucoup mieux que 10 000 sermons si j'ai un entretien ou deux avec telle et telle personne ». Donc, encourager la confession. Là aussi, il dit « c'est fort dommageable que dans nos milieux, par référence à ce qui se passe dans l'église papiste, on ait abandonné la confession ». Et j'ai ouï dire que dans l'Allemagne luthérienne, beaucoup ont regagné, ont rejoint justement la réforme pour échapper à la confession auriculaire. Et ils trouvent que c'est dommage qu'on devrait pratiquer la confession dans nos églises et ne pas mépriser ça comme une vile tradition papiste. Donc les fidèles se persuadent volontiers qu'un pasteur doit borner ses soins aux cérémonies publiques. Ils ignorent qu'un pasteur est dans son église, ce qu'est dans son école un instituteur qui doit instruire et surveiller chacun de ses élèves. Donc il faut visiter particulièrement les familles, visiter les malades. Jusqu'à ce que les familles soient réformées, vous ne pouvez guère espérer une réforme générale. Il pourra sans doute y avoir quelques piétés dans votre église, mais tant qu'elle sera bornée aux individus et qu'elle ne pénétrera pas dans le cercle de la famille, elle ne prospérera point et ne fera jamais beaucoup de progrès. Donc il a un bon sens pratique, en fait, Baxter. De trop grandes études l'ont éloigné des querelles théologiques. C'est un pacifique, lui, les querelles théologiques, ça ne l'intéressait pas. Il insiste aussi beaucoup sur la méditation, la nécessité de méditer, d'avoir des temps personnels pour chaque individu. Et il reconnaît que c'est très difficile. Vous trouverez dans votre cœur autant d'éloignement pour cette œuvre que pour toute autre pratique de la religion. Que d'excuses il alléguera. Comme un serviteur négligent, il s'arrêtera pour causer avec le premier passant. Lorsque votre esprit ne devrait être occupé que du ciel, il pensera à votre vocation, à vos peines, il se laissera distraire par tous les lieux qui s'offrent à vos regards. Dites à votre cœur, suis-je venu ici pour penser à mes affaires mondaines, aux nouvelles du jour, à toute autre chose qu'au ciel? Ne peux-tu pas veiller une heure? Est-ce ainsi que tu aimes ton ami? Ne préfères-tu pas à tout cela? Christ est le lieu de ton éternel et bienheureux repos. Donc ça, c'est ce qu'il dit dans le repos éternel des saints. Alors, c'est pas nouveau, parce que déjà les pères du désert, hein, dans l'Antiquité, 4e, 5e siècle, insistaient beaucoup sur la gestion des pensées aussi, hein, de son cœur, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, et qu'est-ce que je fais pendant mes temps de culte personnel. Si vos pensées vagabondes, semblables à des oiseaux affamés, dévore les méditations qui étaient destinées pour le ciel, elle dévore votre vie et votre joie. Alors, je l'ai noté celle-ci parce qu'elle me faisait penser à ce que disait Luther. Luther disait, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler par-dessus votre tête, mais vous pouvez parfaitement les empêcher de construire leur nid dans vos cheveux. C'est vrai, il y a des pensées qui peuvent passer, mais on n'est pas obligé de les héberger, en fait, hein, de leur offrir l'asile jusqu'à la fin de nos jours. Son œuvre est toujours éditée. C'est quelqu'un qui montre un grand intérêt pour la théologie pratique. Il a le soin des âmes. C'est un vrai pasteur. Et c'est vrai que l'ouvrage qu'on a gardé, Le Pasteur Chrétien, résume bien, hein, son souci pour le pastorat. Et il va avoir beaucoup d'influence en Grande-Bretagne. Donc, bien sûr, surtout le milieu puritain, mais pas seulement. Whitefield, donc il va influencer le méthodisme. Spurgeon, on raconte que Spurgeon, donc grand pasteur baptiste, grand orateur du 19e siècle, Spurgeon disait à sa femme, enfin c'est ce qu'il dit dans ses écrits, il demandait à sa femme de lui lire tous les dimanches un extrait du frère Baxter pour le pousser aux ailes, parce qu'il devait se trouver parfois trop refroidi, pourtant c'était Spurgeon. Plus près de nous aussi, Lloyd-Jones a été influencé par Baxter. Autre auteur, donc un petit peu plus connu sans doute, de la même époque, donc c'est Spener, qui naît, je le disais, dans le contexte luthérien. Spener hérite donc de toute la doctrine de Luther. Luther avait insisté sur la grâce, hein, les trois solas, la grâce, la foi, l'écriture. Luther mettait en avant la relation personnelle à Dieu, il plaidait pour le sacerdoce universel. Enfin bon, en pratique, ça ne sera peut-être pas aussi simple que ça dans les églises luthériennes. Il va beaucoup œuvrer également pour la publication de catéchismes, traduction de la Bible en allemand, catéchisme pour les pasteurs, le grand catéchisme, qui était plus volumineux, catéchisme pour les fidèles, le petit catéchisme. Luther insiste beaucoup sur la grâce. Il faut dire que Luther, c'est un pionnier, hein, il démolit le catholicisme, et c'est plutôt Calvin après qui va reconstruire doctrinalement avec son institution de la religion chrétienne toute la pensée protestante. Luther, comme il est plus ou moins novice, il lance le grand mouvement de la réforme en 1517. Luther insiste beaucoup sur la grâce, parce que pour lui c'est une découverte, comme il était moine avant, forcément il avait pratiqué les mortifications, etc. Il n'avait pas connu le côté le plus glorieux du catholicisme, hein. On prêchait les indulgences en Allemagne, donc il insiste beaucoup sur le primat de la grâce. Alors cela dit, on lui a reproché d'avoir négligé les œuvres. Dans son message, il reconnaissait que les œuvres avaient leur importance. Il disait très clairement, les bonnes œuvres ne font pas le juste, mais le juste sans les bonnes œuvres n'existe pas. Dans son texte sur la liberté du chrétien, et ça date de 1520, si ma mémoire est bonne, donc c'était vraiment le début de la réforme. Donc Spener est alsacien, il est né à Ribeauvillet. L'Alsace a navigué entre la France et l'Allemagne, elle est définitivement française sous Louis XIV à la fin du XVIIe siècle. Et donc Spener, ça aussi je l'ai découvert en travaillant, il est spécialiste de sciences héraldiques, c'est l'étude des blasons. En Europe, on était très très... les familles nobles avaient leur arbre généalogique avec tous les blasons, etc. Et donc il a fait des études assez poussées dans ce domaine. Donc il est fortement marqué par... Alors il est né dans une famille luthérienne pieuse, et il est très marqué par un ouvrage, c'est celui de Jean Arndt, un théologien luthérien, ouvrage qui s'appelle « Le vrai christianisme ». Alors le titre montre bien que derrière « Le vrai christianisme », il y a une critique du luthéranisme officiel, un ouvrage qui a été beaucoup lu en Allemagne, qui est très influencé aussi de la mystique rhénane, Thomas Kempis, Toller, aussi un mystique rhénan de la lignée de Maître Eckhart, qui va influencer également Luther, Toller. Alors Arndt, justement, insiste beaucoup plus aussi sur la vie vécue, sur la piété, que sur la doctrine. Ensuite, Spener fait des études de théologie et d'histoire à Strasbourg. Strasbourg, c'était une grande ville à l'époque qui foisonnait, hein, au plan culturel. On pouvait faire toutes sortes d'études. C'était très, très riche au plan intellectuel. Donc, il est docteur en théologie en 1664. C'est sans doute ce qui l'oppose le plus de Baxter, c'est qu'il a fait des études poussées. Mais sinon, au niveau de leur doctrine, ils ont beaucoup de points communs. Et donc il va faire une thèse sur un sujet prédestiné, c'est la nouvelle naissance. Donc il va beaucoup insister sur ce passage de la nouvelle naissance. Il renonce à une carrière universitaire, il va devenir prédicateur à Strasbourg, puis Francfort. Et c'est quand il est prédicateur, il va être à la tête d'une paroisse, c'est là qu'il découvre les mots du luthéranisme, et notamment un certain laisser-aller dans les églises, au nom de la grâce, justement, au nom de ce primat de la grâce, mais une grâce à bon marché, hein, comme dira Bonhoeffer au XXe siècle. Donc, il réagit en publiant des catéchismes, il réintroduit la confirmation, qui était tombée en désuétude dans le luthéranisme, c'est-à-dire que dans le luthéranisme, on pratiquait le baptême des enfants, et on avait ensuite une autre cérémonie, la confirmation, vers 12-13 ans, je ne sais plus exactement, et on avait tendance à laisser tomber cette cérémonie, et Spener pense que c'est important justement pour que les jeunes apprennent à savoir où se situer la confirmation, et donc il a essayé de la rétablir, et surtout il organise, ce qui va lui poser problème, beaucoup de petits groupes de prières, Parce que son idée, c'était de mettre en place ecclesiola in ecclesia, ça veut dire la petite église dans l'église, ou la petite église dans la grande. Des petits groupes, des petits conventicules qui pouvaient se greffer sur une église ou regrouper des chrétiens de différentes églises pour s'édifier mutuellement. Par exemple, parler du sermon du dimanche, avoir des sujets de prière, etc., sur la vie des uns et des autres. Mais c'est extra-ecclésial. C'est ce qui a fait peur aux élites de l'église luthérienne. Et l'idée, c'était que ces petits groupes de piété allaient ensuite ranimer la grande église, puisque ces personnes, une fois réveillées dans leur petit groupe, allaient apporter leur flamme dans la grande église. Ensuite, il écrit donc un ouvrage, c'est l'ouvrage classique quand on pense à Spener, les Pia Desideria, ça veut dire les vœux pieux, les souhaits pieux il y avait un sous-titre que j'ai oublié, les souhaits pieux, oui, ou le désir d'une amélioration de la vraie Église évangélique. Donc c'est le texte vraiment fondateur du piétisme. Alors là aussi, on voit tout de suite, après son plan, hein, où il veut en venir. Chapitre 1, le triste état de l'Église évangélique. L'Église évangélique, c'est l'Église luthérienne hein, en Allemagne. Alors les carences des clercs qui sont dépravés, ivrognes, etc., des laïcs, c'est pareil. Ils se livrent des procès les uns aux autres. Ça, ils ne supportent pas de voir les chrétiens qui se livrent des procès les uns aux autres et qui vont aller étaler tous leurs conflits devant les juridictions. Chapitre 2, l'état meilleur promis par Dieu à son Église. Et donc, il prend des exemples dans la primitive Église. Il prend des exemples aussi chez les pères de l'Église. Ça, c'est classique. Hein. Les auteurs, les premiers réformateurs, prennent souvent des citations chez les pères de l'Église, hein, chez Jérôme, Augustin, Saint Ambroise, Tertullien, et ensuite chez les théologiens catholiques, Anselme, Saint Thomas d'Aquin, etc. Ils le font tous, hein, Luther, si vous lisez l'Institution de la religion chrétienne, pas les éditions épurées, mais les éditions anciennes, ils ont tous des références. Et c'est nous, je ne sais pas depuis quand, mais en milieu évangélique, on évite de citer les catholiques, en fait. Hein, mais ça s'est fait très très longtemps. Et ensuite, chapitre 3, proposition, répandre la parole de Dieu par des conventicules, réactiver le sacerdoce universel, parce qu'il disait qu'il faut laisser la parole à tout le monde, hein, dans ces petits groupes, les personnes qui se sentent non qualifiées pour parler, elles seront plus à l'aise pour parler dans ces petits groupes que dans une église où c'est le pasteur qui fait son sermon. Et donc il faut éviter les controverses, convaincre par l'exemple, ramener la théologie à la simplicité apostolique, privilégier les petits livres simples à l'université. Thomas Kempis, donc l'imitation de Jésus-Christ, Tolère, qui a beaucoup influencé aussi Luther. Luther disait, il faut absolument lire le bienheureux Tolère, le grand maître Tolère avait dit ceci, cela, etc. Et donc mettre l'accent sur la spiritualité. Il est favorable plutôt à des instituts bibliques, à des choses beaucoup plus pratiques, Spener, que ce que l'on voit dans les facultés de théologie de l'époque. Alors évidemment, c'est un message qui ne va pas tout à fait dans le sens de l'élite luthérienne. Et donc, on le suspecte de sectarisme. Il n'a jamais été trop ennuyé. Mais quand même, l'université de Strasbourg voyait d'un mauvais œil ce genre de discours. Alors, son message, c'est que la foi doit avoir un côté pratique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend les doctrines en disant « oui, mais il y a un versant pratique ». Combien sont-ils nombreux, ceux qui mènent une vie manifestement non chrétienne ? Eux-mêmes ne nient pas qu'ils contreviennent à la règle en tout point, et ils n'ont aucune intention de changer leur vie. Et avec tout cela, ils s'imaginent avec une ferme confiance vouloir détenir le salut malgré cela. Qu'on leur demande sur quoi se fonde cette assurance, on constatera, et eux-mêmes l'avoueront, qu'ils s'en remettent au raisonnement suivant. Puisque nous n'avons pas la possibilité d'obtenir le salut par notre vie, c'est-à-dire par nos œuvres, et qu'ils croient au Christ et mettent toute leur confiance en lui, alors cela ne peut pas rater. Ils obtiendront assurément le salut grâce à cette foi. Ainsi, ils prennent une idée charnelle de la foi, car jamais la foi inspirée de Dieu ne peut exister sans le Saint-Esprit, mais une telle foi ne peut pas coexister avec des péchés voulus et dominants pour la foi elle-même. Qui donne le salut, c'est là une duperie du diable d'imputer le salut à une telle chimère issue d'un esprit humain trop sûr. Donc, je reprends les arguments de l'autre, mais voilà, c'est pour les démolir finalement. Je ne peux pas avoir toujours le mot la grâce à la bouche et me comporter complètement à l'opposé. D'après lui, il faut privilégier l'édification dans la prédication. La chair n'est pas l'endroit où on doit étaler son art, etc. Il faut occuper les gens, habituer les gens à s'occuper de l'homme intérieur et ensuite à agir sous l'impulsion de cela. Il faut donner l'idée aux gens de les habituer vite à croire que le savoir n'est pas suffisant dans la vie chrétienne. Celle-ci réside beaucoup plus dans la pratique. Donc compléter les prédications par des études bibliques, toujours éventuellement dans ces petits groupes, plusieurs autres personnes de la paroisse à qui Dieu aurait donné une connaissance suffisante s'entretiendraient fraternellement sur chaque passage dans l'interprétation la plus simple. Il serait permis à chacun d'émettre des doutes et de demander des éclaircissements, et par là toute l'assemblée serait édifiée. Il a une vision très égalitaire en fait. Il dit que finalement, même la personne la plus simple, elle peut apporter un commentaire ou demander un éclaircissement et ça profitera à tout le monde. Et puis, il veut aussi privilégier l'accompagnement spirituel, comme dans le catholicisme finalement. Il peut être utile, comme en général pour grandir dans la vie chrétienne, que ceux auxquels on demande instamment de marcher dans les voies du Seigneur aient des relations confiantes et amicales avec leur confesseur ou avec un autre chrétien sage et inspiré. Qu'ils lui rendent toujours compte de leur vie, des occasions qu'ils ont eues d'exercer l'amour chrétien, de la manière dont ils les ont saisies ou laissées passer. Qu'ils se fassent conseiller et instruire par lui, qu'ils s'informent pour savoir où il y a encore des carences et comment y remédier. Comment faire progresser finalement ces ouailles. Alors, qu'est-ce qui est essentiel dans la foi chrétienne ? Alors, évidemment, il n'est pas le premier à le dire, hein, mais là aussi, c'est intéressant de souligner, c'est la centralité de l'amour. Surtout, notre cher Sauveur nous a bien souvent recommandé l'amour comme le vrai signe distinctif de ses disciples. Il est certain que pour un homme croyant et sauvé par la foi, toute la vie et tout l'accomplissement des commandements divins se résument dans l'amour. Donc, tous ces chrétiens qui se faisaient des procès doivent essayer quand même de régler leurs problèmes autrement. Et il s'agit d'un amour qui se montre ouvertement, et non d'un amour inutile sous prétexte qu'il est caché dans le cœur. Si nous jugeons d'après ce signe-là, combien sera-t-il difficile de trouver dans la grande masse des prétendus disciples du Christ un petit nombre seulement qui le soit vraiment ? Et c'est pourquoi les piétistes ont fondé des œuvres pieuses un peu partout où le piétisme s'est implanté en Europe, des orphelinats, des écoles, des hospices, etc. Alors ça aussi, c'est un personnage que je ne connaissais pas. Franque a prolongé le mouvement piétiste. Il était professeur à Halle. C'est lui qui a plus tard structuré tout le mouvement, à la fois pasteur et théologien. Et j'ai découvert la fondation Franque existe toujours. Et donc il a lancé le premier institut biblique et formation de missionnaires, 18e siècle. Zizendorf est un peu plus connu aussi dans nos milieux, filleul de Spener, va donner une impulsion au mouvement avec la constitution des communautés dites de frères moraves. Ils ont eu une influence assez considérable, les piétistes, un peu partout. En France aussi, enfin en Alsace, donc mise en place d'orphelinats, hospices, écoles. Le pasteur Oberlin est assez connu en Alsace. Il y a un musée, je crois, qu'on peut visiter, que je n'ai jamais visité. Pasteur luthérien, lui aussi, fils du piétisme, apôtre du progrès social. Ils vont fonder des écoles maternelles avec sa femme. On le voit là avec une faux sur l'épaule. Il a aidé les paysans au banc de la roche à mettre en place des techniques d'irrigation, des engrais, des formules nouvelles de culture. Mais il est souvent représenté au travail avec ses paroissiens. Voilà, pour aller plus loin, les deux ouvrages, La vie évangélique, Pia Desideria, et donc l'ouvrage de Baxter. Donc s'il y a quelques questions...